Merci beaucoup. Bah déjà, merci beaucoup pour l'organisation de cette riche journée. Je vais continuer sur l'histoire des limites dont il a été question à l'instant, mais les limites au niveau physiologique et au travers du question du concept de stress, donc qui est pour moi clairement biologique et politique, voire biopolitique. Et qu'il est, quand on se penche sur la littérature, sur la notion de stress, on est déjà surpris que les sciences humaines et sociales l'appréhendent essentiellement sous un angle extrêmement critique, justement, comme une tentative de dépolitisation des problèmes sociaux. Alors, je ne vois pas tout dans mon écran, mais en gros, une critique sociale, on va dire, des concepts de stress dès le départ, tente à montrer que la notion de stress vise à dépolitiser les problèmes sociaux, puisque c'est essentiellement quelque chose qui relève de l'individu et non pas, on détourne l'attention vers les processus biologiques et sur la psychologie des individus au lieu d'affronter les déterminants sociaux. Et la notion de stress, vous allez voir que je la lis systématiquement, du moins à chaque fois qu'on fait l'histoire du concept de stress, qu'on essaye de dépasser ces interprétations-là. On se retrouve assez vite confronté à la notion de déterminants sociaux, voire d'inégalité sociale de santé. Et si je m'intéresse à ça, c'est parce que déjà je m'intéressais au travers de la physiologie, mais qu'on voit revenir cette notion sur le devant de la scène au travers d'un ensemble de travaux qui visent. Alors ce matin, on a entendu que la biologie était génocentrée. Je trouve au contraire qu'on assiste à la fin de ce paradigme-là, avec tous les travaux sur l'épigénétique, la santé environnementale, un ensemble de notions qui questionnent le rapport entre l'organisme et son environnement, et la notion de stress joue un rôle fondamental. Et là encore, on trouve des critiques assez radicales de ces notions. Dès qu'on essaye de penser ça, on voit revenir l'idée d'un régime de vérité néolibéral, parce que justement, au lieu de questionner, dès lors qu'on cherche à biologiser les déterminants environnementaux et sociaux de la santé, on y voit une tentative de dépolitisation. Donc, c'est le contexte général dans lequel je me place, enfin le point de départ dans la recherche actuelle, mais avec une tradition de critique du concept de stress sous cet angle. Donc, le stress psychosocial est associé à une biologisation, une somatisation, donc risque d'individualisation, et tout ça dans ce contexte de retour des notions de santé environnementale, d'épigénétique. Alors moi, je questionne ce nouveau risque dit biopolitique ou l'usage de cet idiome de tout le registre foucauldien avec régime de vérité néolibéral. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, quand on pense à l'histoire du stress, on remonte à Hans Selye, qui est l'auteur à qui on attribue la création du concept de stress. Mais on se rend compte que déjà, ce n'est pas le premier. Et c'est loin d'être le premier, et c'est peut-être pas le plus intéressant, parce que pour le coup, effectivement, il a écrit beaucoup de livres populaires sur la notion de stress qui avaient même une tendance qui tendait vers le développement personnel, c'est-à-dire comment il donnait des conseils sur comment gérer son stress en situation, donc une conception strictement individuelle et pas du tout collective de la notion de stress. Par ailleurs, des gens comme Mark Jackson ont fait un travail d'historien pour montrer que le concept de stress, avant d'être biologisé, mais ça on remonte à au moins la première partie du XXe siècle, était un concept populaire. C'est-à-dire que certaines personnes se disaient sous stress, avant même que ça, en tout cas aux États-Unis, avant même que ça devienne une notion scientifique. Et donc, comme je disais, quand on essaye de faire l'histoire du stress, on se retrouve à faire l'histoire des déterminants sociaux de la santé et des inégalités sociales de santé. Du moins, c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que je suis remonté, j'ai trouvé systématiquement ces notions. Et puis, je suis tombé sur une personne, donc Walter Cannon, qui est la première, sinon peut-être la première, à faire une théorie intégrée, et on verra ce que j'entends par intégrée, du stress. Dans ce sens-là, c'est un programme à la fois clinique, expérimental, épidémiologique et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est politique. Et donc, là, on remonte. Cannon est mort, on va le voir, en 1945. Donc, on est pile dans la période couverte par la journée. Donc, c'est relativement ancien. C'est pas la biologisation du stress n'est pas nouvelle, contrairement à ce qu'on... On semble lire parfois dans les travaux de critique du développement de l'épigénétique, c'est qu'on assisterait à quelque chose de nouveau qui serait la biologisation via le stress des déterminants socio-environnementaux de la santé. Et ce que je veux montrer, c'est que non seulement cette histoire est ancienne, mais qu'en plus de ça, les questions politiques sont intimement liées dès le départ. Stress et politique sont des concepts qui naissent ensemble. Quelques repères méthodologiques, parce que l'une des difficultés que j'ai dans mes recherches, du moins quand je les menais, c'était des difficultés méthodologiques. C'est-à-dire que je viens de l'histoire de l'épistémologie, où, comme on l'a rappelé ce matin, on distingue, peut-être que parfois on les oppose, du moins c'est ce qu'on peut voir parfois dans la critique de l'histoire épistémologique, entre idéologie et rationalité, ou idéologie et positivité. Et c'est souvent une critique qui vient des mouvements, de l'étude sociale des sciences, pour laquelle la science est politique, ou parfois n'est que politique. Et ce que moi j'essaye de faire pour essayer de sortir de ce dilemme, même si je pense que par ailleurs il y a des aspects politiques dans les travaux de Canguilhem, par exemple, qui sont bien cachés, mais même le fait qu'il essaye de qui sont discrets peut laisser penser que on peut lui reprocher de ne pas les exposer plus clairement. Et j'essaye de faire dans mon travail ce que Boltanski a appelé le passage d'une sociologie critique à une sociologie de la critique, c'est-à-dire comment la dimension politique, ce qu'on pourrait dire idéologique, de la recherche devient pour le chercheur un problème scientifique. Donc une articulation, comment ils essayent de penser l'articulation du scientifique et du politique, et ce que j'ai thématisé au travers d'une réflexion historique sur des changements de régime de politisation des sciences. Donc ça, c'est pour le projet global. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est présenter rapidement le parcours scientifique de Cannon, et puis m'intéresser à son bouquin le plus connu, La sagesse du corps, en m'intéressant à sa réception, et puis en essayant d'en donner un nouveau regard, donc nouveau regard que j'ai essayé d'apporter dans la publication de deux séries de conférences qu'il a données à Paris en 1930. Et puis revenir sur la question du stress, de ses rapports à l'homéostasie et à l'homéostasie sociale, et retour sur la biologisation, la question du problème de la biologisation des inégalités sociales de santé. Donc Walter Cannon, c'est qui ? Donc il entre à Harvard en 1892, il rejoint l'école de médecine. Et puis assez tôt, alors qu'il est étudiant, on lui propose de mener des recherches sur les mécanismes de déglutition. Il est diplômé de médecine en 1900, il publie les premiers articles sur la réforme de l'enseignement, et puis, en fait, il hésite longtemps entre une carrière de neurologue et de chercheur de laboratoire, puis il choisit la physiologie et devient assistant professeur de physiologie en 1902, puis professeur et directeur du département de physiologie de Harvard. Et donc, je reviens sur ses recherches sur la déglutition. Donc, il venait de recevoir un appareil à rayon X, et puis on lui a dit qu'on connaît mal les mécanismes de la digestion. Est-ce que vous voulez l'étudier? Vous mettez des animaux dedans, puis vous regardez, vous leur faites manger quelque chose, puis vous regardez ce qui se passe. Puis il remarque que quand il étudie ces animaux, si quelqu'un claque la porte, soudainement, le mécanisme de digestion s'arrête. Donc c'est assez drôle, c'est-à-dire que ses premiers travaux portent sur un mécanisme normal, qui est, comment dire, dérégulé par une réaction qu'il considère comme émotionnelle. Et puis, en fait, il va changer son orientation. Il va aller étudier les mécanismes qu'il considère émotionnels qui viennent troubler les fonctions normales. Et puis, il a de la chance parce que c'est au même moment qu'on introduit la notion d'hormone qui va être essentielle dans la compréhension des mécanismes émotionnels. Si il faut placé quelque part dans une généalogie, dans une filiation canon, c'est vraiment le fils spirituel de Darwin qui avait écrit l'expression des émotions et qui rentrait pas vraiment dans les détails et qui laissait penser que c'était des mécanismes qui restaient un peu résiduels de l'évolution, mais qui donnaient pas forcément d'explication fonctionnelle aux émotions. Et puis, évidemment, son mentor sur le plan expérimental et en physiologie, c'est Claude Bernard. Et il va utiliser, enfin, il va, dans la suite de ces deux auteurs, il va mettre au jour ce qu'il appelle le système sympathico-surrénal, c'est-à-dire comment, lorsque vous vivez une situation, vous avez à la fois une activation, lorsqu'il y a une émotion forte, votre corps va subir des modifications qui vont préparer à l'action. C'est de lui qu'on tient l'expression fight and flight, c'est-à-dire que soit on lutte, soit on part en courant. Non seulement il y a le système nerveux qui entre en jeu, c'est-à-dire avec des décharges électriques dont on comprend à l'époque pas vraiment comment ça fonctionne, mais aussi par le biais des glandes surrénales qui relâchent de l'adrénaline dans le sang et qui se diffusent dans le corps et qui ont une action beaucoup à plus long terme que les décharges nerveuses. Et dans son premier, tout premier livre, donc, il va expliquer comment, si vous subissez, quelqu'un vous fait peur, vous voyez subitement un animal sauvage vous courir dessus, vous avez une décharge d'adrénaline qui va rendre les muscles beaucoup plus réactifs et qui vont mieux résister à la fatigue. Mais vous avez aussi des mécanismes comme une accélération de la coagulation du sang. Si par exemple vous êtes blessé, votre sang va coaguler plus vite que si vous n'êtes pas sous le coup d'une émotion. Il va donc, au fur et à mesure, après ce travail, donc, revenir à quelque chose comme la physiologie normale, puisqu'après avoir quitté la physiologie normale pour la physiologie normale troublée par l'émotion, il va revenir à la physiologie normale en définissant une forme de normalité physiologique. Son bouquin « The Wisdom of the Body », il a voulu l'appeler « Comment nous restons normaux ». Ce qu'il a bien fait de ne pas l'utiliser parce qu'il aurait prêté le flanc à beaucoup de critiques déjà qu'il en a eu pas mal et certaines n'étaient pas tout à fait méritées comme on va le voir. Et donc il a introduit le concept d'homéostasie en 1926 qu'il définit comme les processus physiologiques coordonnés qui maintiennent stable la plupart des états dans l'organisme. Alors, le livre est très long, il détaille. C'était un livre qui était censé être semi-populaire, comme avait dit son éditeur, mais il détaille les mécanismes. Là, par exemple, vous voyez des rats. Les rats, elles ont la fonction de filtrer le sang, mais il montre que lorsque vous avez... habituellement, il prend des animaux, il leur fait perdre du sang, par exemple, il leur coupe un membre, et puis il regarde comment ça se passe, comment ils tiennent. C'est assez terrible à lire ce qu'ils font aux animaux. Il y a plein de débats, d'ailleurs, avec William James sur la question de la vivisection. Et puis, il montre que la rate, elle ne fait pas que filtrer le sang, c'est aussi une sorte d'homéostasie par réserve, c'est-à-dire qu'on garde une poche de sang pour la restituer en cas de perte de sang abondante. Alors évidemment, au bout d'un moment, les réserves ne fonctionnent plus, mais c'est une marge de sécurité physiologique pour le corps. Ce qui m'intéresse, c'est que Cannon, c'est un personnage totalement oublié, mais qui a eu une importance fondamentale bien au-delà de la physiologie. Alors, on sait notamment par Canguilhem qu'il a, je ne me rappelle plus quelle est l'utilisation de Canguilhem, si c'est fertiliser ou féconder la cybernétique. Arthur Rosenbluth était un de ses étudiants. Évidemment, l'influence de Cannon a été sur la physiologie, surtout la psychosomatique, mais aussi l'épidémiologie, la neurologie et les neurosciences. Et puis ce qu'on oublie assez souvent, c'est qu'il a eu une importance fondamentale sur l'école du structuro-fonctionnalisme. Donc Merton et Parsons se réfèrent à lui dans leur parcours pour expliquer comment ils en sont venus à défendre une théorie sociale fonctionnaliste. En France, c'est un peu plus compliqué. Alors, déjà, La sagesse du corps est publiée en 1932, puis à l'occasion, il trouve enfin un éditeur pour la France, et à l'occasion de la réédition de 1939, il veut publier le livre en France. Le problème, c'est que la guerre, il y a la guerre, et que finalement, le livre ne paraît qu'en 1946. Donc, entre 32 et 46, le contexte social, politique et scientifique a énormément changé. Quoi qu'il en soit, Canguilhem en fait son homme de paille systématique lorsqu'il s'agit de critiquer l'organicisme. Et il dit au sujet de ce livre que c'est un tissu de lieux communs de sociologie libérale. Alors pourquoi de sociologie libérale? C'est parce que dans la dernière partie de son livre, une partie qu'il n'a pas voulu considérer comme un chapitre mais comme un épilogue, il parle des rapports entre l'homéostasie biologique et l'homéostasie sociale. Bon, j'anticipe un peu sur ce que je voulais dire un peu plus tard. Vous savez que Canguilhem dit que dans l'organisme, la norme est immanente dans la société, elle est ce que la politique doit créer, c'est-à-dire que c'est une production artificielle, la politique. Il dit que donc il prend Cannon comme le représentant d'une pensée périmée, pour le coup, qui est celle de l'organicisme, alors que Cannon ne dit jamais, ne compare jamais l'organisme social à un organisme biologique, puisqu'il dit la crise de 29 nous a démontré que la société n'est pas autorégulée. Par contre, moi, spécialiste des mécanismes régulés, je peux imaginer quels outils nous pourrions introduire dans la société pour qu'elle soit plus homéostatique. Ce qui n'a rien à voir, ce n'est pas du tout quelqu'un qui soutient une thèse organiciste. On va voir quels sont les mécanismes en question. Donc, extrêmement critiqué par Canguilhem. Tant que canguilhémien, je suis le premier attristé de voir que Canguilhem a potentiellement mal lu, si je peux me permettre, Cannon. Et puis, il y a une autre critique. Alors, je ne sais pas si c'est une critique, si c'est descriptif, ou si c'est une critique. C'est, pour Foucault, il y voit la naissance de l'État libéral moderne, voire l'archétype même, le prototype même d'une biopolitique, une régulation des processus biologiques de l'homme-espèce, une technologie assurantielle ou régularisatrice. Moi, j'aime bien l'idée de technologie assurantielle. Je pense que, pour le coup, Foucault a entièrement raison, mais pas totalement entièrement. C'est-à-dire que il passe peut-être à côté de certains aspects. Du moins, ça dépend si on considère que la théorie est purement descriptive ou si elle est critique, mais j'y reviendrai. Donc, ce nouvel éclairage que j'ai essayé de donner, donc, je me suis intéressé à ce moment où Cannon vient à Paris et il donne deux séries de cinq leçons, l'une sur les émotions, donc ce qui concernait la première partie de sa carrière, et puis cinq nouvelles leçons sur l'homéostasie. Et il n'y a pas de lien entre les deux leçons, ou alors très peu. Et puis c'est un moment charnière justement parce que il n'a pas encore intégré les deux. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces conférences, en tout cas celles sur l'homéostasie, qui vont servir de premier chapitre à ce qui va devenir la sagesse du corps. C'est pour ça qu'il tenait absolument à le publier en France. Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc, sur les émotions, on voit qu'il a une. Il a souvent besoin d'expliquer pourquoi il travaille sur ces questions, et le type de questionnement à la base de son travail sur les émotions est clinique. Et il cite beaucoup d'exemples, comme vomissements qui persistent en raison d'une dette et qui disparaissent lorsque le médecin paye de sa poche la somme due, une glycosurie chez un patient diabétique mais stabilisé que l'employeur entend renvoyer. Il écume plusieurs exemples comme ça qui relèvent de situations sociales. En gros, on peut comprendre son travail de laboratoire comme une extension, enfin un besoin de répondre à des problèmes cliniques. Et ces leçons terminent sur un plaidoyer sur la prise en compte des émotions dans la médecine somatique, et pas simplement de renvoyer les patients avec des problèmes dits émotionnels au psychiatre. Et il renvoie à ses collègues, Richard Cabot ou Emerson, qui ont œuvré au rapprochement de la médecine et de la sociologie. Non pas simplement pour créer la catégorie des social workers, mais vraiment une sociologie clinique, c'est-à-dire des sociologues embauchés dans les hôpitaux pour aller voir comment les conditions sociales des gens déterminent leur état de santé. Et puis ce qui m'a intéressé, c'est que comme il était en France, je me suis intéressé aux personnes avec qui il échangeait pendant avec les Français avec qui il échangeait pendant, avant, pendant et après son séjour en France. Alors, il rencontre beaucoup de personnes, mais sur la question de l'articulation entre biologie et politique, il me semblait tout particulièrement intéressant de voir qu'il échangeait beaucoup avec Charles Richet et Édouard Toulouse. Alors, j'imagine que vous connaissez Charles Richet, qui est physiologiste nobélisé en 1913, si mes souvenirs sont bons, sur les mécanismes de l'anaphylaxie, qui par ailleurs s'occupe beaucoup de recherches sur les phénomènes paranormaux, et puis qui écrit des livres grand public où il exprime ses idées politiques, comme dans L'homme stupide, où il déverse des lignes et des lignes qui. Là. Sur et des propos profondément racistes. Mais ce qui est que ces livres ont en commun, c'est de se poser la question des raisons du déclin de la vitalité française. Donc chacun y va de son hypothèse. Et Charles Richet dit que la guerre a réalisé une sélection à rebours qui n'a laissé que le rebut humain. Et donc la guerre 14-18 a tué les plus braves, et donc il ne reste plus personne pour relever les défis de la modernité. C'est le monde qui s'accélère, il y a le téléphone, il y a des avions, il y a des bateaux. Et il trouve que la vitalité des Français est tellement basse qu'on n'arrive pas à relever les défis de la modernité. Et que donc pour ça, il faut des solutions. Lui, alors, il est pour un État qui n'intervient nulle part, qui laisse tout le monde se débrouiller parce que c'est un, il fait confiance au darwinisme social. L'État n'intervient juste pour une chose, c'est-à-dire empêcher les mariages et la reproduction de personnes entre elles qui pourraient faire baisser la vitalité. Donc, on va prendre les plus forts et les faire se reproduire ensemble pour créer le et la française capable de relever les défis de la modernité. Édouard Toulouse, c'est un peu différent. Il n'est pas aussi, radical. Lui, ça passe plus... parce que Richet est d'accord, sans problème, de recourir à l'eugénisme le plus radical, s'il le faut. Édouard Toulouse se place plutôt du côté de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'ils se reproduisent, les personnes malades, les personnes handicapées, leur faire comprendre par une compréhension des moyens de contraception, de leur faire une sorte d'empowerment négatif, leur faire comprendre comment ne pas se reproduire pour ne pas produire plus de personnes, comme je disais, incapables de relever les défis de la modernité. Donc l'eugénisme comme méthode de sélection sociale des individus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec l'idée d'homéostasie sociale chez Cannon. Donc, Cannon échange avec eux, il échange beaucoup avec Richet. Il pourrait tout à fait. On a des traces dans la correspondance qu'il lit ses livres, donc on pourrait s'attendre, dans une certaine mesure, qu'il partage ses vues, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ils n'ont jamais d'échange très particulier sur les aspects politiques, donc c'est très difficile de mettre au jour le débat, véritablement. Et comme je l'ai dit, le corps politique pour Cannon n'est pas homéostatique. Le biologiste peut éclairer sur les mécanismes de régulation à mettre en place. Et Cannon, qui est un grand ami de Pavlov, se rend souvent en URSS. Et même s'il n'est pas totalement dupe de ce qui s'y passe, il salue l'expérimentation sociale. Et il y voit une volonté de réforme sociale qui correspond à tout ce mouvement aux États-Unis de réforme sociale dont Dewey fait partie et les raisons pour lesquelles le livre de Dewey permet de recontextualiser les États-Unis de l'époque, c'est-à-dire que il essaye de comprendre ce qui s'est passé avec le libéralisme et les promesses du libéralisme, de voir que ça a échoué et d'essayer de penser ce qu'on peut faire après. Et les critiques de la société américaine, avec une caste qui gouverne par l'argent et le pouvoir que ça donne, qui rend difficilement possible la vie démocratique. Et qui est surtout le domaine du laisser-faire absolu. Et Cannon, en s'inspirant du corps, dit ben, voilà, nous, ce qu'il faut, c'est mettre en place des mécanismes qui vont prévenir les crises économiques. Ou alors les effets des crises économiques. C'est-à-dire, par exemple, il faut faire des stocks de nourriture pour les donner aux gens si nécessaire. Il faut assurer les conditions structurelles qui vont faire qu'on va éviter des crises et les effets des crises économiques, et surtout avoir un système inspiré notamment, mais ce n'est pas le seul endroit, de l'URSS, qui est un système de médecine sociale ou de médecine socialisée, avec de la protection sociale, protection des travailleurs et assurance maladie. Et c'est des débats qui sont extrêmement importants au même moment aux États-Unis, puisqu'en 1932, il y a un projet porté par la Fondation Rockefeller, notamment, qui essaye de se racheter comment dire, c'est pas du greenwashing, mais c'est du. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils essayent de se racheter en développant des projets de médecine sociale et qui essayent de pousser au développement d'une assurance maladie aux États-Unis. L'histoire de l'assurance maladie aux États-Unis, c'est terrible parce qu'à chaque fois, c'est des échecs récurrents. Donc, Cannon considère que ce qu'il fait, il s'inspire beaucoup de Thorstein Veblen, qui est un théoricien de la technocratie, alors qui recoupe pas le terme qu'on a aujourd'hui, où on voit plutôt par technocrate, hein, quelqu'un qui sort de l'ENA. L'idée de technocratie, c'est l'idée que c'est pas des ouvriers, c'est plus des ouvriers que va venir la révolution, mais des ingénieurs, parce que c'est eux qui savent comment optimiser l'économie, trouver des solutions. Et lorsque c'est un biologiste qui donne des solutions, ça donne la biocratie. Et Cannon défend cette idée qu'on peut, en s'inspirant de la biologie, on peut peut-être trouver des mécanismes politiques qui vont permettre d'assurer la protection du corps social. Et donc, c'est vraiment une théorie de la protection sociale. Donc, comme je le disais, il a écrit plusieurs articles, enfin non, deux. Principalement après cet épilogue, il va utiliser le terme de biocratie qu'il va abandonner après. Peut-être qu'il a réalisé que le terme qu'il employait de Toulouse était peut-être un peu trop eugénique et que ce n'était pas forcément une bonne idée. Je crois qu'Auguste Comte l'a utilisé aussi avant ça. Donc, Cannon et ses contemporains, on a en gros deux usages politiques distincts de la biologie. Toulouse et Richet, c'est sélectionner les plus aptes à relever les défis de la modernité, et Cannon établir une connaissance objective des limites physiologiques du corps. Établir tout le travail sur l'homéostasie, savoir à quel moment, et il fait vraiment ça en laboratoire, ils prennent quelqu'un, ils lui font prendre de l'altitude, puis ils voient à quel moment il tombe dans les pommes. C'est tout un travail pour voir où sont les limites du corps humain. Mais si on le regarde avec l'idée que derrière toute cette réflexion de protection du corps, on sort d'une idée, d'une lecture biopolitique où ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment on optimise la force de travail, mais plutôt une réflexion sur quelles sont les limites à ne pas dépasser, qu'est-ce qu'on peut demander au corps humain et qu'est-ce que le politique doit mettre en place pour ne pas le tuer. Et c'est comme ça, si on a ça en tête, on peut peut-être comprendre pourquoi, comment il en vient à son projet, à son programme de recherche sur le stress. Alors le terme de stress n'apparaît pas dans les conférences, mais c'est accidentel. C'est simplement qu'il a tenu absolument à traduire tous les termes français et il a traduit le terme de stress par émotion ou trouble émotionnel. Et c'est Céline qui se vantera d'avoir introduit le terme stress en français, d'ouvrir le Larousse et d'y voir sa postérité en trouvant le terme stress, et du coup, on pense que c'est lui qui a inventé le stress, mais en fait, il a juste imposé le terme anglais en France. Et donc, par stress, il va tout simplement définir tout événement externe qui déstabilise la stabilité de l'organisme. Et c'est extrêmement intéressant de voir les exemples qu'il prend, c'est le travail prolongé, la fatigue, les exigences scolaires, les insomnies, les infections, et tous les effets du stress dans des périodes critiques du développement, l'enfance, l'adolescence et l'âge avancé. Donc c'est vraiment une approche de comment les conditions sociales, les conditions de travail impactent le corps humain et quelles sont les limites à pas dépasser. Donc, ce qu'il utilise, c'est le modèle physiologique toujours le même, le système sympathico-surrénal. Donc, c'est aussi donc un modèle physiologique, mais aussi un modèle politique, développement de l'état social, et un modèle épistémologique pluraliste, puisque, comme on l'a vu, il recourt à la physiologie, il s'intéresse à la clinique. Mais il y a aussi des passages où il dit clairement qu'il faudrait avoir des données épidémiologiques, mais que malheureusement, elles sont difficiles à obtenir. Et c'est évidemment intégré dans une réflexion politique. Alors, j'aurais plusieurs éléments de conclusion. quoi répondre à l'idée que le stress psychosocial, c'est finalement une biologisation, une somatisation, donc un risque d'individualisation et de désocialisation des déterminants sociaux de la santé, et que ce serait un risque surtout nouveau. Et on voit très bien au travers de Cannon que cette biologisation est loin d'être nouvelle, et que surtout elle est indissociable d'une question de la socialisation des déterminants de la santé. C'est vraiment connaître les limites de la physiologie humaine à des fins de protection. Protection par les causes structurelles, donc en amont, et en aval par la question de l'accès aux soins. Si on essaye de replacer tout ça dans l'histoire des déterminants sociaux de la santé et des inégalités sociales, il y a cet historien qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on se rappelle qu'il y a des inégalités sociales de santé, ce qui signifie que dès qu'on a dépassé la crise, on oublie tout de suite. Et ça se vérifie, même si ce n'est pas l'éternel retour du même, c'est-à-dire qu'il y a toujours des transformations. Mais Walter Cannon, c'est la crise de 29, et on voit très clairement comment il thématise cette crise de 29 dans sa réflexion sur le stress. Là, on a aussi, donc c'est les crises de social, mais c'est aussi ce qui va devenir ensuite les crises du modèle social dans les sociétés contemporaines. Il y a le Black Report qui paraît en 1980 sous Margaret Thatcher. Elle essaye de le faire, de le cacher, de le censurer en le faisant paraître juste un jour férié. C'est pareil, on est en plein mouvement de grande volonté, pour le coup néolibérale avec Thatcher, qui veut démanteler le service public. Le rapport des commissions des déterminants sociaux de la santé, à chaque fois vous trouvez des mentions au stress ou au stress psychosocial. Il paraît en 2028, on est très proche de la crise économique de cette époque-là. Et puis, vous aurez peut-être remarqué qu'on a eu quelques documents qui ont paru, quelques appels de personnes à prendre en compte la question des inégalités sociales pendant la crise de Covid-19. Barbara Stiegler, mais quelques-uns. Ouais, mais je parlais même dans la presse française, où on a accusé, enfin, on a relevé, comme ils ont dit, la socioparésie de la médecine publique française, de ne jamais donner une épaisseur sociale aux données épidémiologiques. Donc il y a eu quand même un petit sursaut, et pourtant, la France, c'est un des plus mauvais élèves en termes de déterminants sociaux de la santé. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que, je trouve ça récurrent, à chaque fois que vous avez des grands projets qui vise à biologiser les inégalités sociales de santé, comme ce grand projet européen mené par Paolo Vineis qui vient de se terminer et qui cherche à d'élaborer un marqueur physiologique, d'usure physiologique pour le coup, qui est prédicteur de mortalité et qui permettrait de voir comment certaines personnes, de faire des corrélations avec le niveau socio-économique, donc de mêler vraiment épidémiologie, biologisation, etc. Dans le descriptif du projet, c'est vraiment dire que le projet est né de la volonté d'étudier l'impact de la récession économique de 2008. Et puis de montrer que les pays qui ont un système de protection sociale ont une baisse de morbidité et de mortalité moins importante que ceux qui n'en ont pas. Donc c'est vraiment une sorte de... c'est ce que j'essaye de comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de Foucault. C'est peut-être Foucault qui a peut-être le mieux perçu ce qu'était le paradigme homéostatique plutôt qu'une accumulation de conception libérale naïve. C'est que lorsqu'on rentre, il faut qu'il y ait une société de protection sociale, assurantielle, pour qu'émerge la notion de stress. Ça va de pair. C'est-à-dire que si vous avez un système d'assurance, vous devez vous poser les limites de ce qui est possible ou pas. Et la médecine du travail, c'est finalement quasiment que ça. Le problème, c'est que, et là je prends une citation d'Emmanuel Renaud qui me paraît mais fondamentale dans la compréhension, dans tout ce qu'on a dit ce matin au sujet de la version positive ou négative de la lecture de Foucault, il dit « mais ce qui reste indéterminé chez lui, donc Foucault, c'est si de telles luttes contre la souffrance, et j'inscris Cannon dans ces chercheurs qui tendent à lutter contre la souffrance, dont la santé peut être présentée comme l'horizon normatif, doit être conçue comme des luttes biopolitiques ou pour une autre biopolitique non libérale, néolibérale, ou plutôt comme des luttes contre la biopolitique. » Et ça, c'est, il me semble, un point problématique, méthodologique, extrêmement important, mais Vous en avez parlé ce matin, j'ai rien à redire, c'est un addendum à ce que vous avez dit. Et c'est pour ça que moi, dans ma démarche d'historien et de philosophe des sciences, je trouve ça nécessaire de faire ce saut, plutôt que de faire une sociologie d'aplomb qui dit, de surplomb, de dire, voilà, il y a du social partout, et finalement, s'il y a du social partout, ou du politique partout, il est à peu près nulle part, de voir comment les chercheurs le thématisent. Et si on reste à cette position de surplomb, Canon, c'est juste, effectivement, que de la sociologie naïve, et que si on rentre dans le détail, on se rend compte, par le contexte, que c'est nettement plus compliqué que ça. Et de voir que, justement, cette lutte de réinscrire le travail de ces chercheurs dans les luttes biopolitiques, comme le dit Emmanuel, de penser les luttes biopolitiques et de penser, et ça, c'est ce que j'essaye de thématiser, comment, mais ça rejoint ce qu'on a dit ce matin, comment on peut avoir à la fois du biopouvoir et du bio-empouvoir. Cette idée de penser l'empowerment et de penser, comme on a dit, comme vous l'avez dit ce matin, avec et contre Foucault, parce que cette notion de bio-empouvoir, elle est totalement absente chez lui. Donc, si je veux conclure, une approche de l'encadrement social des limites biologiques à ne pas dépasser sans que l'intégrité physiologique ne soit mise à mal, une technologie de gouvernance des sociétés assurantielles modernes née dans les années 30, je pense que c'est tout à fait ça. Canon fait partie de ces gens qui pensent la médecine sociale avant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand tous les systèmes de protection sociale sont mis en place en Europe, du moins, c'est juste à la sortie de la guerre et c'est en se basant sur les penseurs de la médecine sociale d'avant-guerre. Et c'est ce qui se passe en France avec le Conseil national de la résistance, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni avec le rapport Beveridge. Donc une approche des effets somatiques des rapports de... Le stress, c'est vraiment une approche des effets somatiques des rapports de production et des luttes biopolitiques dans les sociétés modernes. Et donc cette biologisation qu'on voit partout et que beaucoup de critiques de la biologie voient comme un régime de vérité du néolibéralisme, peut-être que c'est plus intéressant, mais c'est une question que je vous pose, que de le voir comme à chaque fois un moyen d'avertir sur les effets physiologiques et sociaux de la dérégulation, et je pense que la crise de Covid le montre assez bien, ainsi que pour nous qui sommes déjà dans des sociétés de protection sociale, que les risques associés au démantèlement des systèmes de protection. Et c'est peut-être pour ça que la notion de stress revient de manière un peu récurrente, si je veux simplifier, mais c'est aussi peut-être le modèle biopolitique dans lequel se pose la question du stress qui est en danger dans la question des démantèlements des systèmes de protection sociale. C'est un peu ce que j'ai essayé de poser comme question. Et si la question que je me pose, c'est ce qui se passe actuellement. On n'est pas en train de préparer le post-biopolitique. Et si on ne voit pas, on n'assiste pas, et ça, vous participez de ça, des mécanismes de lutte biopolitique qui visent à contenir ce démantèlement des systèmes. Les systèmes néolibéraux ne se posent pas la question de la mesure du stress. On s'adapte. On ne se pose pas la question des limites. On s'adapte. Et on trouve ça très bien chez Charles Richet. On veut qu'il y ait une sélection des plus aptes. Donc on n'a pas une théorie de l'adaptation. Et si on a une théorie de l'adaptation, on est obligé d'avoir une théorie des limites à l'adaptation. Donc merci pour votre attention.